Arnaud Boutéon, bonjour et merci une nouvelle fois d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria.
Bonjour, bonjour chers amis de Radio Maria, très heureux d'être avec vous. Nous sommes à moins de 70 jours des Jeux Olympiques et voilà, il y a une forme d'ébullition. Alors il y a toujours des ronchons qui pleurnichent, mais ils sont toujours là pour pleurnicher. Nous, on veut que le bien écrase le mal, on veut que l'espérance écrase le pessimisme et voilà, donc... Je ne sais pas si on est des illuminés, si on est des grands naïfs, mais en tout cas cet événement que sont les Jeux Olympiques, l'engouement qu'il y a autour, en particulier de ce projet Holy Games, eh bien nous ça nous enthousiasme. Et vous savez que l'étymologie d'enthousiasme, c'est le transport divin. Et donc on pense et on est convaincu que le terrain sportif est un terrain éminemment missionnaire. Pourquoi ? Parce que le sport vient travailler notre humanité, il vient célébrer l'unicité de notre personne humaine, corps, âme, esprit. Et quand on creuse, quand on laboure, quand on va chercher très profond, eh bien il y a un moment, il y a une petite lumière divine qui va éclore. Et ce qui fait que aujourd'hui les vestiaires sportifs ne sont pas des lieux laïcisés, ce sont des lieux dans lesquels, parce qu'on a travaillé cette patte humaine, eh bien, on parle de Dieu. Et je suis rentré là de Lourdes, et on peut faire vraiment un parallèle entre le monde sportif et le monde militaire. J'ai participé au 64e pèlerinage militaire international. Alors il y avait un peu comme une ambiance de stade, avec des drapeaux, avec une liesse, avec de la bière qui coulait à flot, avec des chants qui venaient de partout, une dimension très internationale. Et puis ces moments de silence et de recueillement au moment du passage de la procession eucharistique, où il y a eu énormément de confessions. Rien que pour la France, il y a eu 180 baptêmes, 400 confirmations. Il y a vraiment quelque chose de très beau et c'est magnifique, parce que c'est vraiment le Seigneur qui vient diviniser notre humanité, et c'est une patte humaine, la patte sportive comme la patte militaire, qui a été travaillée, qui a été vraiment labourée. Ils connaissent le poids de la souffrance, ils connaissent le poids de l'effort, de la mobilisation mentale, ils connaissent l'enjeu de notre finitude humaine, et puis l'importance de la solidarité. On ne laisse pas un camarade sur le côté, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui le texte de loi sur la fin de vie va arriver à l'Assemblée nationale. Mais je m'égare, on est là pour parler du père Didon. Alors le père Didon, je pense qu'il y a une petite musique autour du père Didon. On parle de plus en plus de lui. Il y a un colloque à la Sorbonne qui va advenir prochainement. Eh bien, c'est un prêtre dominicain il était très atypique, très libéral, avec un certain caractère, avec beaucoup de charisme. Et à la fin du 19e siècle, ce prêtre, avec son autorité très forte, il était assez fort en gueule, il dirigeait l'association sportive du collège d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Et Pierre de Coubertin, qui était un jeune psychologue féru d'hellénisme, de culture grecque, et puis en même temps fasciné par le développement du sport dans les écoles anglaises, Pierre de Coubertin, voyant cet homme assez charismatique, les deux étaient catholiques, mais les deux étaient, ce qui est intéressant, étaient un peu caractère fort, ils étaient un peu en rupture de banc avec leur milieu. Le père Didon, très vite, a trouvé, on va le comprendre après, que dans l'église peut-être très institutionnelle, ça dégoulinait un peu de moralisme, et c'était un homme extrêmement vivant, très vigoureux, qui aimait aller de l'avant. Et puis, il avait une dimension assez libérale, il pensait que l'église devait non pas se replier, mais rejoindre le monde pour le transformer de l'intérieur, et j'adhère à cette vision. Et Pierre de Coubertin était issu d'une famille fortunée, monarchiste, aristocratique. Il a été assez rebelle, et très vite aussi il a vu l'importance de ne pas trop ramer à contre-courant, mais d'épouser aussi la vie de la société telle qu'elle est. En tout cas, les deux étaient assez visionnaires, différence d'âge importante, et Coubertin est allé voir un peu ce grand-père pour lui parler de cette idée qu'il avait dans le cœur d'organiser des compétitions sportive. Alors, dans un premier temps, il avait eu cette vision en mode un peu micro. Donc, lui, Coubertin, s'occupait d'un établissement scolaire public, et il est allé voir le père Didon, qui régnait de maître avec une férule tendre mais exigeante sur un gros établissement catholique. Et il a dit, je voudrais organiser des compétitions entre nos élèves. Et symboliquement, c'était aussi une forme de réconciliation entre une France républicaine laïque et une France catholique. Et très vite, le père Didon a eu une certaine bienveillance vis-à-vis de la vision de Pierre de Coubertin. Et Coubertin a demandé au père Didon de l'accompagner dans ce projet, de l'accompagner pastoralement, de façon amicale aussi. Ce n'était pas un projet institutionnel validé par un évêque, etc. C'était vraiment l'amitié et la liberté d'exercice de cette pastorale, de l'amitié du père Didon vis-à-vis de ce jeune entrepreneur. Et le père Didon, c'est intéressant, lui a dit « j'en serai ». Il a dit « j'en serai, allez-y, montez votre projet, j'en serai ». C'est comme s'il lui disait « voilà, je te bénis, mais je ne te bénis pas ». Et pour tourner le dos et pour vaquer à mes occupations, je te bénis, je te donne, je reconnais en toi, le fait que tu es porteur d'un projet, et ce projet, je le trouve beau, et je serai là pour l'accompagner quand tu le souhaiteras. Je ne fais pas d'emprise, je ne fais pas d'intrusion, mais je serai là pour l'accompagner, pour essayer de christianiser aussi ce projet, pour le recadrer, mais j'en serai. Et je trouve ça assez merveilleux en termes de paternité spirituelle. D'entendre ce prêtre lui dire bah, je suis fidèle à ton projet, je suis ton ami, j'en serai, je te bénirai, et en y apportant peut-être ce contenu un peu spirituel par rapport au risque parfois de dérapage ou bien d'hubris qu'on peut connaître dans tout projet. Et vous savez que ça, vous le savez certainement, parce que je l'ai dit souvent sur cette antenne, que nous devons au père Didon cette première devise olympique, Situs Altus Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, à laquelle en 2021 a été rajouté le mot ensemble, communautaire, pour manifester l'exigence de solidarité. Et avec vous, chers auditeurs, j'ai pu aussi évoquer à quel point cette devise pouvait être très ambiguë. Plus vite, plus haut, plus fort. Ça peut être plus vite, plus haut, plus fort dans la charité, dans l'élan missionnaire, mais ça peut être aussi plus vite, plus haut, plus fort. Et bien dans le contrôle des esprits, dans l'hubris, dans le transhumanisme, dans la déconstruction. Donc on est en permanence sur la brèche. Mais de façon exclusive et exceptionnelle, ce que je voulais, chers amis de Radio Maria, c'était de vous livrer quelques verbatims du discours du père Didon au congrès olympique du Havre. Il y avait un congrès olympique qui s'est tenu le 29 juillet 1897. Et donc on retrouve des propos qui sont délicieusement désuets et qui s'inscrivent évidemment dans un contexte historique. Je crois qu'il mérite d'être partagé aujourd'hui, mais sachez que voilà, on est dans une prose et dans une expression verbale qui peuvent paraître un peu décalées par rapport à la façon que nous pouvons avoir de parler aujourd'hui. Et ce texte, figurez-vous qu'on l'avait partagé en septembre 2023 dans l'église de la Madeleine, le jour où on a inauguré la chapelle Notre-Dame des Sportifs. Et à l'issue de ce petit discours que j'avais lu de façon solennelle, il y avait un fidèle qui était dans l'assemblée, qui était ministre d'un pays africain, qui m'a dit « Mais monsieur, vous avez écrit un discours remarquable, etc. » Et donc, j'ai dû humblement lui dire que je ne faisais que lire la prose du père Didon et que je n'étais pas prêt à travailler pour lui pour être conseiller de son ministère. Et donc, c'est assez drôle. En tout cas, il avait applaudi des deux mains, comme toute l'assemblée qui avait trouvé ça assez rafraîchissant. Voilà, donc je ne vais pas prendre la voix de stentor du père Didon, mais je vais vous lire un peu toute cette réflexion qui s'inscrit dans un contexte. Hein, on est en 1897, les Français sont quand même assez traumatisés par la défaite de Sedan. On passe d'un siècle à l'autre. Il y a beaucoup de... on est encore dans un esprit très libéral, avec ce que ça suppose de libertinage aussi. Et on sort du 19e siècle et l'Église peut être un peu perdue. En tout cas, elle voit le besoin d'arrimer la jeunesse à quelque chose de beau et de grand. Et elle pense, elle voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Alors voilà ce que dit le père Didon. Sachez qu'il avait une certaine autorité. Hein. Il était plutôt jeune et donc il parlait avec une vraie autorité. Je ne suis qu'un humble membre de cette réunion, mais il m'appartient de me réjouir de me trouver à vos côtés, car la plus haute tâche de la civilisation ne consiste-t-elle pas à former l'homme tout entier, intellectuel, physique et moral. En rendant témoignage de l'œuvre de Monsieur de Coubertin, je viens ici parler de la puissance éducatrice et de l'action morale des exercices physiques de plein air sur la jeunesse, sur la formation du caractère et le développement de la personnalité. Les résultats obtenus par la pratique constante et habituelle des exercices de plein air et des sports athlétiques sont nombreux. Et je vous en signalerai les principaux. Le premier, c'est le développement, la multiplication de l'activité physique. Quand vous voyez des enfants inertes, paresseux physiquement, soyez certains qu'ils le sont moralement. Et quand vous voyez des enfants actifs jusqu'à la turbulence, soyez sûrs qu'il y a en eux des vertus en germe. Le deuxième résultat, c'est l'esprit de combativité et de lutte. L'enfant commence par avoir peur. L'humanité est d'abord craintive et timide. Il faut qu'elle fasse preuve de vaillance. Et pour cela, il est nécessaire de développer l'esprit de combativité et de bravoure, afin de ne pas se détourner de l'obstacle, mais de l'affronter et de le vaincre. Le troisième résultat de la vertu de l'activité physique consiste à donner la force ou l'endurance, et donc la patience pour ne pas reculer. Je constate que les jeunes sportifs sont tempérants et qu'ils sont très modérés en matière de plaisir. Ils ne fument pas, ne parient pas sur les champs de course. Ils savent se priver pour un but supérieur. Quatrième point, pour compléter ces résultats, je vous en signalerai un autre d'ordre civique. J'ai observé des petits groupes qui se formaient parmi les jeunes. Je n'aime pas l'esprit de coterie, cause de division et de faiblesse. En organisant les sports, en mêlant tous les groupes, j'ai vu que cette grande jeunesse est arrivée à faire la fraternité. Là est le génie politique, celui de réunir. Voilà, c'est un texte très intéressant parce que si on analyse ces quatre points, finalement, on est aussi sur un terrain missionnaire avec ce mot d'éducation, vous savez, educere, conduire hors de. Et je voudrais un peu les reprendre avec vous. Et puis ensuite, je ne résisterai pas au plaisir de vous transmettre finalement une petite saillie du père Didon contre les adversaires des sports. C'est assez réjouissant. Mais dans un premier temps, c'est intéressant de reprendre les quatre points. D'abord, le premier point, il disait, c'est le développement de l'activité physique sur les enfants. Et il disait, quand on voit des enfants inertes, paresseux physiquement, soyez certains qu'ils le sont moralement. Bon, on ne peut résister à la joie hein, de rebondir sur un peu la génération des adorateurs et des idolâtres du smartphone, des séries, de tous ces jeux aussi vidéo. Et on voit, alors nous on a une expression familiale, on voit des loukoums hein, ou des mollusques. Et ce qui est sûr, c'est que l'absence de mouvement, l'absence de vous savez, d'esport, c'est ce vieux mot français qui dit se déporter, eh bien évidemment que ça a un vrai impact sur cette force morale qui consiste à aller de l'avant, qui consiste à avoir cette force de résister aussi à la tentation. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand Didon évoque les enfants actifs jusqu'à la turbulence, il y a en eux des vertus en germe. Et là, ça fait écho à un bon échange que j'avais eu avec le général de Villiers, vous savez, qui a été chef d'état-major des armées et qui est, depuis sa retraite forcée, est allé rencontrer les jeunes en France, en particulier les jeunes des cités. Et il a posé, et on imagine que le regard de Jésus était comme ça aussi sur les personnes qui étaient un peu à la marge, il a posé un vrai regard de bienveillance sur cette jeunesse. Et il a vu que chez ces enfants actifs jusqu'à la turbulence, on sait que dans les cités, il y a le gros problème de l'absence des pères, eh bien, il a su voir en eux des vertus en germe. Des vertus en germe. C'est-à-dire que s'il y avait un vrai tuteur, s'il y a des personnes avec une autorité, c'est pas celui qui gueule le plus fort, c'est celui qui propose une vision de la grandeur. S'il y a une vraie exigence aussi dans la correction, eh bien, on peut faire de cette jeunesse quelque chose de grand et de beau. Et hier, j'étais à la messe du pèlerinage militaire international dans cette crypte de la basilique Saint-Pilice de Lourdes. Et il y avait devant moi 8 jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Ils explosaient dans leur chemise tellement ils étaient costauds et musclés. Beaucoup étaient tatoués. Et j'étais avec quelques amis. On a été vraiment émerveillés par leur ferveur, la dévotion. Ils étaient à genoux. pendant la prière eucharistique. Et il y a eu des malaises à côté. Ils se sont tout de suite précipités avec beaucoup d'autorité. Comme ça, ils ont relevé les personnes. Et c'est très intéressant. Et ça me fait penser vraiment à ce besoin aujourd'hui, dans une société un peu déboussolée, de devoir s'appuyer sur ce qui résiste. Et peut-être que les chrétiens, certains auront été actifs jusqu'à la turbulence, mais il faut qu'il y ait des pères P-I-R-S et des pères autour de la paternité qui sachent voir en eux ces vertus en germe. Je reviendrai, le deuxième point, c'est intéressant, c'est l'esprit de combativité, de lutte. Et le père Didon évoque cette humanité craintive, timide, on a tous peur, et même dans les récits évangéliques, vous savez, quand les anges apparaissent, il y a toujours ce mouvement de crainte, de peur, et il évoque l'esprit de combativité et de bravoure qui consiste, et ça c'est vraiment une forma mentis, c'est à se dire de toute façon il y aura des obstacles, de toute façon il y aura des difficultés. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ces obstacles? Est-ce que je les fuis? Et avec derrière, on le voit, hein, quand on met un genou à terre et quand on fuit l'adversité ou bien quand on rétropédale, en termes de dignité, de fierté personnelle, bah, c'est pas exceptionnel, quoi. On s'en veut. C'est comme un peu, vous savez, quand vous avez des intuitions qui montent dans votre cœur, qui consistent à poser des gestes de communion ou de charité, et puis que vous avez ce phénomène d'auto-trahison où vous étouffez. C'est cet élan de bonté, de charité, parce qu'on procrastine, parce que c'est de la paresse, parce que c'est de l'égoïsme. Eh bien, on n'est pas fier de soi. Et ça, c'est vraiment c'est une question de loi naturelle. Et Didon évoque cet esprit de combativité et de bravoure pour ne pas se détourner de l'obstacle, mais l'affronter et le vaincre. Et quand on réfléchit, souvent quand je rencontre des jeunes, je leur dis, mais réfléchissez au vrai moment de bonheur que vous avez pu avoir dans votre vie. C'est pas le moment de plaisir, mais le moment de bonheur, c'est quand vous avez ce cœur qui se dilate et vous êtes fier de vous, de ce que vous avez fait. Eh bien, quand on réfléchit à ces moments de bonheur, eh bien, ils viennent toujours après des moments soit d'aridité, soit de séparation, soit de souffrance, soit de combat. Et il me semble qu'il faut comprendre que la vie, c'est cette capacité, parce qu'on n'est pas seul, nous chrétiens, on le sait aussi, mais il y a aussi quand même cette volonté qu'il faut muscler, cette capacité à surmonter les obstacles, comme un cheval va, tout à l'heure il va parler des courses hippiques, va sauter toutes les courses, les haies qui sont sur la piste et je le dis alors qu'il y a 15 jours, il y a eu le grand steeplechase d'Auteuil, qui est une course exceptionnelle. Eh bien voilà, préparons-nous à sauter les haies et puis rendons grâce pour tous les obstacles qu'à notre mesure, nous avons pu vaincre finalement. Le troisième résultat, la troisième vertu évoquée par le père Didon, et là on retrouve vraiment les vertus chrétiennes, c'est la force, l'endurance et donc la patience pour ne pas reculer. On est juste après la Pentecôte, on est vraiment dans les fruits de l'Esprit-Saint, et pour ne pas reculer. Et mon petit séjour à Lourdes m'a conduit à Tarbes, et vous savez que Tarbes, c'est la ville native du maréchal Foch. Et le maréchal Foch était un catholique très fervent, et en travaillant sur son histoire, on a découvert qu'il avait prié avec Bernadette de Lourdes, parce que sa marraine connaissait Bernadette, et il a prié à la grotte, avec Bernadette. Il était tout petit, je crois qu'il avait 7-8 ans, et le maréchal Foch a toujours récité son chapelet chaque jour. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur Foch, en particulier une anecdote où Clémenceau avait demandé à ce qu'on aille chercher le maréchal Foch, et le maréchal Foch était à la messe, et donc l'aide de camp lui dit, Monsieur le Président, le maréchal est à la messe, on ne peut pas le déranger. Il lui a dit, oui, ne le dérangez pas, pour l'instant ça nous a plutôt bien réussi. Et c'est intéressant, c'est que Foch, et je rebondis sur cette expression de ne pas reculer, Foch a toujours été adepte de l'offensive. Il a toujours dit, voilà, je suis enfoncé à ma droite, à ma gauche, mais je vais de l'avant. Et en tant que chrétien, je crois que, de la même façon, je l'ai souvent dit sur ces ondes, nous ne sommes pas là pour nous victimiser, pour pleurnicher. Je crois que le monde attend notre voix, le monde attend notre joie. Eh bien, nous ne devons pas reculer. Et le père Didon évoque ces jeunes sportifs qui sont tempérés et tempérants, et ils sont modérés. Et dans le monde dans lequel nous vivons, avec énormément de sollicitations, énormément d'addictions, énormément d'idolâtrie ici et là, je crois que le chrétien, c'est celui qui saura se modérer et qui saura se priver, mais pourquoi? Pour un but supérieur. Voilà. Et le monde a besoin d'objectifs. Le monde a besoin de grandeur. Benoît XVI avait une belle expression. Il disait « L'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. » Et si on diffuse chez les gens, chez les jeunes en particulier, un idéal de grandeur, on peut leur permettre vraiment de se surpasser. Et dans le management d'une entreprise, on voit aujourd'hui qu'une entreprise qui va mal, c'est une entreprise qui repose sur ce flou, sur cette absence de vision, sur cette absence de direction commune. Et quand la vision, elle est partagée, quand les objectifs ils sont très clairement établis, quand il y a un but supérieur qui mobilise les uns et les autres, eh bien, les efforts sont faits et surtout, on avance. On n'avance pas vite, mais on peut avancer loin parce qu'on est unis. Et derrière, ça mobilise vraiment ces deux vertus, hein, l'audace et l'endurance. Il parle de la force. Et puis derrière, cette patience pour durer. Pour les parachutistes dit, agir pour ne pas subir. Et le quatrième petit résultat de l'activité sportive évoqué par le père Didon, il est d'ordre civique. Et c'est intéressant parce que ça fait écho au rayonnement sur la société et au service du bien commun. Et le père Didon dit « J'ai observé des petits groupes qui se formaient parmi les jeunes et ils voient l'esprit de coterie, cause de division et de faiblesse. Et à travers le sport, en mélangeant tous ces groupes, donc ça suppose de faire tomber des barrières sociales, des barrières linguistique, il a vu que cette grande jeunesse est arrivée à, alors son expression c'est faire la fraternité. Et je pense que le monde sportif, on évoquait le monde militaire, et le monde chrétien doit pouvoir rayonner de ce génie politique, celui de réunir, celui de faire en sorte que les personnes sortent de cette tentation de repli, de célébration de leur identité, de cet égoïsme, de cette paresse aussi, pour pouvoir s'ouvrir à une réalité supérieure dans l'altérité, dans la rencontre avec l'autre. Et où que vous soyez dans le monde, c'est vrai que quand on balance un ballon dans une foule, eh bien très vite, il y a cet esprit d'enfance qui va remonter, qui convoque l'esprit d'enfance est convoqué. Et puis, il y a un lien qui va se faire à travers la passe, à travers cette complicité. Et puis, quand vous êtes français et que vous dites que vous venez du pays de Zidane, eh bien, les yeux s'allument. Et c'est très intéressant parce que à la lumière de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans une société ultra polarisée, ultra fragmentée, en particulier à travers les réseaux sociaux, il avait vu que le sport, en mêlant tous les groupes, pouvait arriver à faire la fraternité. Et c'est vraiment l'intention de prière que nous pouvons porter alors que les Jeux Olympiques arrivent, alors qu'il va y avoir un enjeu autour de la trêve olympique. Vous savez qu'il y aura une messe, on en reparlera sur ces ondes, le 19 juillet en l'église de la Madeleine avec le président du Comité Olympique International, Thomas Bach, qui a le courage d'afficher avec force ses convictions catholiques. Cette trêve olympique, une semaine avant le début des Jeux olympiques, ça va être un appel vraiment pour que les conflits dans le monde cessent et qu'on puisse, l'espace d'un temps, vivre une expérience de fraternité. Ça fait penser, vous savez, à cet épisode assez connu pendant la Première Guerre mondiale où un soir de Noël, il y a eu un match de foot complètement improbable entre des lignes françaises et lignes allemandes parce que quelqu'un avait osé balancer un ballon. Entre les lignes et tout le monde s'est arrêté et il y a eu un match de foot et ensuite les soldats sont repartis dans leurs tranchées à nouveau s'entretuer et l'esprit de trêve olympique je crois que c'est ça et peut-être que cette messe olympique peut être vraiment l'occasion d'un appel très fort si elle est médiatisée, si dès maintenant il y a un appel à prier et à confier tous les belligérants pour que autour des Jeux Olympiques il y a un esprit de paix qui puisse naître et puis derrière ça soit aussi l'occasion à travers cette beauté qu'est le sport, qu'est la mobilisation de l'activité humaine, qu'est la célébration de la personne humaine, corps, âme, esprit. Notre corps, vous savez, est le temple, le temple de l'esprit. Quand on reçoit Jésus, on est tabernacle, et quand on témoigne, on est ostensoir. Le Christ fait sa demeure en nous, et c'est d'une puissance transgressive incroyable. Il y a un intervalle le 19 juillet prochain pour que ce message de paix puisse être très largement diffusé. Alors je vais récapituler ce qu'évoquait Didon. La première chose, c'était vraiment face à un esprit de mollusque, eh bien, l'importance du sport comme terrain de vertu, l'activité physique, le fait de se bouger comme terrain de vertu. La deuxième chose, c'est l'esprit de combativité, de lutte. Il y a des obstacles, ils sont faits pour être dépassés. Il y avait un slogan de Michelin qui disait qu'il fallait boire l'obstacle. Le troisième résultat, c'est la force, l'endurance et donc la patience. Et là, on est au cœur vraiment des grandes vertus chrétiennes. Et c'est magnifique que le père Didon puisse finalement évangéliser à travers le véhicule du sport. Et puis le quatrième élément, c'est l'unité. C'est l'unité du corps social à travers le sport. Vous savez, souvent que le sport moderne, c'est le mix entre quatre réalités, l'émotion, l'identité, la vitesse et l'incertitude. L'émotion, l'identité, la vitesse et l'incertitude. Et c'est pour ça aussi que le sport est si populaire. Alors maintenant, je ne peux pas résister, en tout cas, à la joie de vous partager une petite saillie du père Didon sur les adversaires des sports. Alors c'est très très drôle, c'est clairement désuet, mais voilà, c'est assez marrant, surtout le lendemain de la fête des mères. Alors les adversaires des sports, le père Didon, là il parle au congrès olympique du Havre, je les classe en trois catégories. Et ce qui est marrant, c'est que les cathos un peu pieusards, je pense, on s'en prend un peu. Je les classe en trois catégories. Les affectifs, les passifs et les intellectuels. Les affectifs, c'est vous, mesdames, les mamans, à vouloir protéger vos enfants, à les éloigner du risque et donc à les empêcher de vivre. Alors, on est dans un contexte particulier, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il évoque un peu les fifis à sa maman et l'importance de projeter l'enfant dans le monde et surtout les amener à se cogner la réalité du risque. Il y a eu un essai très intéressant d'un Canadien il y a quelque temps sur le risque et le care. Et il disait, à travers le care, finalement, on veut tout englober, on veut tout contrôler. Et même la loi sur la fin de vie, et on est vraiment dans ce que disait Solofiev sur la falsification du bien, on vous dit qu'on va prendre soin de vous, mais on va prendre soin de vous pour mieux vous tuer en gamblant, dit le pape François. Et la vie est un risque. Et les risques valent la peine d'être vécus. Parce que le risque, c'est la souffrance. C'est aussi une forme de douleur. Mais il y a cette question de la joie et du bonheur de surmonter cette souffrance et cette douleur. Mais je vous ferai les commentaires tout à l'heure. Mais je vais lire vraiment dans le texte parce que c'est quand même assez drôle. Je reprends. Quels sont les trois adversaires des sports? Je les classe en trois catégories. Les affectifs, les passifs et les intellectuels. Les affectifs, c'est vous, mesdames, les mamans, à vouloir protéger vos enfants, à les éloigner du risque et donc à les empêcher de vivre. Les passifs, les éternels réactionnaires, les partisans de ce qui fut et les ennemis nés et acharnés de ce qui doit être. Le mouvement nouveau les effraie. Pour gagner des victoires dans la vie, il faut des forces vraies et pratiques. Nous voulons des hommes d'action. Il y a une troisième objection, celle des intellectuels. Et j'appelle intellectuel le monsieur qui croit n'avoir plus d'estomac, qui ne veut pas souffrir de courant d'air. Il fait des livres délicats et dit « Développez le cerveau et non les muscles ». Et moi je dis « Pour développer le cerveau, il faut fortifier le muscle ». Pour terminer par un mot de concorde, mes efforts sont tournés vers ce but. Je voudrais que les sports fussent un terreau où toute la jeunesse de France puisse se réunir. Que dans les sports, qu'on travaille à ruiner dans ce pays l'esprit qui nous divise, pour unir et pour former une France comme nous la rêvons tous. Non pas une France dans laquelle nous penserons de la même manière, c'est impossible, mais une France où tous nous aurons la pratique austère, loyale et chevaleresque du respect des autres et de la tolérance. Alors, il ne peut pas évangéliser de façon explicite, il est dans un congrès olympique, ce n'est pas l'objet. Mais quand on lit entre les lignes, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. Alors, les trois catégories, voilà, donc il évoque les affectifs, la question du risque, du care, la vie, c'est le risque. La deuxième chose, eh bien, c'est un peu les pleurnichards, c'est les pleurnichards. Et parfois, évidemment, le monde est difficile, évidemment... on voit un monde qui se déchristianise, on voit des lois qui ne sont absolument pas enracinées dans une loi naturelle ou dans un humus chrétien, mais pour autant, notre vision n'est pas de nous épuiser, de nous crisper, à pleurnicher sur les signes des temps et sur ce que nous vivons, mais à précisément transformer ce monde. Il faut des forces vraies et pratiques. Nous voulons des hommes d'action. On ne veut pas juste des professeurs de catéchisme ou des pleurnichards. Nous voulons des hommes d'action qui sont là pour fondamentalement transformer le monde et puis de façon vraiment concrète. C'est pas des diseurs, c'est des faiseurs dont on a besoin. Je vais vous lire un petit texte que j'ai retrouvé de l'affrontement chrétien, vous savez, d'Emmanuel Mounier. Et il disait la chose suivante. Il parlait un peu des chrétiens un peu passéiste, un peu passif, un peu pleurnichard. Et il voyait aussi, face à ça, alors Mounier a été assez inspiré marqué par Nietzsche. Nietzsche disait « Je croirais quand je verrais des gueules de sauvés » et il voyait des chrétiens renfrognés. Et il disait la chose suivante, Mounier, qui est un chrétien, hein, qui est vraiment l'apôtre du personnalisme chrétien. Et on a l'impression qu'il nous décrit un peu parfois. Voilà, il disait la chose suivante. « Ces êtres courbes qui ne s'avancent dans la vie que de biais et les yeux abattus, ces âmes dégingandées, ces peseurs de vertu, ces victimes dominicales, ces froussards dévotieux, ces héros lymphatiques, ces bébés suaves, ces vierges ternes, ces vases d'ennui, ces sacs de syllogisme, ces ombres d'ombre, est-ce bien là l'avant-garde de Daniel marchant contre la bête ? Est-ce bien là l'avant-garde de Daniel, le prophète marchant contre la bête ? Et voilà. Et donc, Didon évoquait ces hommes d'action, ces hommes rayonnants qui pourraient conduire des personnes aujourd'hui bouleversées par un monde non chrétien, bouleversées par le vide de toutes les idolatries, par rayonnement, par attraction, comme disait Benoît XVI, des hommes d'action, de vie, de joie, auront un énorme témoignage à apporter à la société pour éviter ces froussards dévotieux, ces héros lymphatiques, ces victimes dominicales stigmatisées par Mounier. Et je vous propose, chers amis, une petite pause joyeuse et puis ensuite on terminera notre méditation par un dernier petit paragraphe du père Didon. Je suis sûr, je crois qu'il y a une biographie du père Didon qui sort prochainement et j'espère que les petits propos partagés ce matin vous permettront de bondir sur cette biographie, parce qu'on a besoin aujourd'hui encore de Père Didon, de personnes libres avec un verbe haut, une parole forte pour nous réveiller, nous sortir de notre torpeur et puis témoigner dans l'espace public. Voilà. Alors, nous sommes avec le père Didon, vous savez, qui était un peu le mentor de Pierre de Coubertin. Et j'ai eu l'audace de vous partager un extrait de ce fameux discours du père Didon le 29 juillet 1897 au Congrès olympique du Havre. Et je vous délivre ce dernier mot du père Didon devant cette assemblée un peu, c'était un peu des notables de tous les pays. Et après avoir un peu secoué une forme de bourgeoisie européenne, avoir évoqué les vertus sportives, il termine par la chose suivante. Pour terminer par un mot de concorde, mes efforts sont tournés vers ce but. Je voudrais que les sports fussent un terreau où toute la jeunesse de France puisse se réunir. Que dans les sports, qu'on travaille à ruiner dans ce pays l'esprit qui nous divise, pour unir et pour former une France comme nous la rêvons tous. non pas une France dans laquelle nous penserions de la même manière, c'est impossible, mais une France où tous nous aurons la pratique austère, loyale et chevaleresque du respect des autres et de la tolérance. Je le redis parce que c'est vraiment intéressant ce mot de ce monde de concorde, cette vertu de concorde, de paix, c'est cette capacité à mettre nos cœurs cum cordes, à mettre nos cœurs finalement en communion, à nous décentrer, à écouter l'autre et à voir peut-être aussi en l'autre le Christ qui a des choses à me dire, qui a des choses à m'apporter, qui va me décentrer de mon petit moi, de mes certitudes. Et le sport, parce qu'il vient nous déporter, parce qu'il vient nous déranger, parce qu'il vient mobiliser notre personne, corps, âme, esprit, il vient la célébrer et la mobiliser. C'est finalement cette activité qui peut nous servir tout le temps de remise en cause, d'électrochoc, dans l'ivresse de la victoire et dans aussi le désespoir de la défaite. Et c'est une métaphore de vie extraordinaire. Aujourd'hui, en France, on est un peu perdu et toujours dans ce même discours, je vais vous dire ce que disait le père Didon à propos de l'arbitrage. C'était intéressant parce que par rapport à cette vertu de justice, il disait, il nous livre sa version de l'arbitrage qui va bien au-delà du sport. Il disait la chose suivante: « Monsieur, vous avez violé la loi, vous êtes disqualifié. Monsieur, vous avez menti, vous êtes disqualifié. Monsieur, vous avez maltraité votre adversaire, vous êtes disqualifié. Un point, c'est tout. » Avec des mœurs pareilles, nous irons peut-être avec succès à l'encontre de ces consciences de caoutchouc que la politique a malheureusement tendu à développer, parce que la politique est en fait d'intérêt, pousse au compromis, et que le compromis est toujours une entorse à la conscience. Et c'est très intéressant, et ça rebondit vraiment sur ce qu'on évoquait tout à l'heure au début de cet échange, sur le besoin de s'appuyer sur ce qui résiste. Et cette jeunesse un peu perdue, même dans l'éducation, ça se voit avec les personnes, avec nos collaborateurs que nous devons porter vers le meilleur. Ça suppose de l'exigence. Une plante va pouvoir monter grâce à un tuteur. Il y a des petits ajustements, des corrections. Et quand il évoque le compromis comme une entorse à la conscience, c'est très intéressant. Et le père Didon, très tôt, à la fin de sa vie, il a vu monter une forme de crispation dans la société française qui a été un terreau favorable à l'antisémitisme. Et le père Didon a très vite identifié finalement l'antisémitisme comme l'expression avant tout, et c'est très intéressant, d'une immense paresse. Et on voit chez Didon, à travers les extraits que j'ai pu vous lire, quelque chose de très tonique, de très fort, de très engageant. Et je crois que même on est dans un contexte avec cette loi sur la fin de vie qui va arriver, alors qu'on va nous parler des Jeux Olympiques et qu'on va célébrer la beauté de la vie humaine, la beauté des vertus humaines, du dépassement et même le dépassement du handicap, parce qu'on a les Jeux Paralympiques qui vont arriver. Et donc c'est tout ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on va s'extasier devant toutes les vertus humaines des athlètes, on va s'extasier devant toutes les histoires de solidarité, les histoires de rédemption, des histoires incroyables de personnes qui reviennent de nulle part, qui à force de volonté, qui à travers l'esprit d'équipe, la solidarité, la mobilisation de leur entourage, vont offrir au monde ce geste juste, sportif, qui vont délivrer ce geste juste. Donc on va s'extasier devant ça, et à côté, comme disait le pape, on va tuer en gant blanc. Il va y avoir cette culture du déchet. Et alors évidemment sous couvert d'humanité, sous couvert même de charité, quand le président de la République évoque une fraternité à rebours, enfin il y a comme ça plein d'expressions qui sont absolument effrayantes, et c'est ça qui est un peu terrible. Donc on va mettre en avant les soins palliatifs, mais pour mieux finalement étouffer et externaliser cette humanité en souffrance. Pourquoi ? Par paresse de tendre la main, par paresse de nous décentrer, par paresse de prendre un peu de temps pour aller visiter des personnes qui sont loin de nous. Et finalement, cette start-up nation que veulent certains gouvernants va faire de plus en plus, va atomiser le corps social. Et tout le paradoxe, c'est quand on lit le texte de de Didon, finalement le texte de Didon à travers ce bien supérieur, à travers l'exigence de l'exercice sportif, il visait une chose, c'était l'unité de la personne, l'unité de chacun. Et avec beaucoup d'intelligence, il n'est pas explicite dans son message chrétien, Didon. Il parle vraiment comme un il affleure le message chrétien. Quand on creuse, eh bien, il va nous mettre en avant des vertus. Mais finalement, l'objectif, c'est pas de les imposer avec le stempel catholique, mais par l'intelligence, il va amener les personnes à se dire, mais tiens, tout ce qu'il dit, c'est frappé au coin du bon sens. Il œuvre à l'unité de la nation. Il œuvre au réveil de cette jeunesse. Il œuvre aussi par l'exigence et par l'autorité au fait que les personnes les plus turbulentes, les plus marginales puissent être réintégrées dans le corps social. Et peut-être que les personnes pourront se dire tiens, d'où parle-t-il ? D'où parle-t-il ? C'est quoi ce langage ? Et là, ils découvriront que cet homme est un prêtre dominicain, qu'il a donné sa vie à Dieu et que finalement, ce qui irrigue toute sa vie, celui qui irrigue toute sa vie, c'est le Seigneur et c'est le Christ. Et c'est pour ça qu'en le relisant même avec vous, ce petit texte de Didon, avec des petites outrances, parce que c'est dans le contexte des temps, mais il est quand même d'une immense actualité pour les temps qu'on traverse. Chers amis, je voudrais quand même vous lire un petit texte aussi à la fin, moi qui m'avait profondément marqué. On l'avait partagé sur cette antenne. C'est à propos de cet esprit de corps, parce que l'appel du père Didon à la fin est un appel vraiment à la concorde, à l'unité. Voyant avec beaucoup de tristesse cet esprit qui est là pour diviser, pour désunir, alors que nous devons, et le pape le dit souvent, nous devons construire, créer des ponts. Et on voit cette polarisation aujourd'hui, même dans l'Église, qui, à mon avis, aujourd'hui est profondément, anachronique, vraiment anachronique, c'est-à-dire totalement décalée. Et le pape Benoît XVI, un jour, il y avait une tempête médiatique, il en a vu beaucoup, il a affronté beaucoup d'obstacles, et il déjeunait avec des frères cardinaux, il les remerciait, et il a pris la parole avec une grande délicatesse. Alors, faut nous imaginer, alors on n'est pas un cardinal, mais on est un peu dans un vestiaire, on a l'entraîneur ou bien le capitaine un peu emblématique. Ça bouge dans tous les sens. Faut s'imaginer peut-être à la mi-temps de la finale de Coupe d'Europe de Toulouse. Il y a Dupont qui prend la parole. Les joueurs sont complètement rincés, esquintés. Ils se sont fait marcher dessus par les Irlandais. Il y a toujours des accidents dans le match, des moments où on passe par tous les ascenseurs émotionnels. Et là, il y a Benoît XVI, alors que ses troupes sont pas bien, qui prend la parole. L'idée de la chose suivante. Saint Augustin a dit que toute l'histoire est un combat entre deux amours. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu. L'amour de Dieu, jusqu'à l'oubli de soi, dans le martyre. Nous sommes pris dans ce combat. Et dans ce combat, il est très important d'avoir des amis. Merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs. Allons de l'avant. Le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Merci à vous tous. Le Seigneur vous bénisse tous. Levons nos verres. Et cette allocution papale, elle transpire d'un esprit profondément sportif, de combat et de joie. Il pose d'abord le diagnostic, ce combat entre deux amours, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est nos petites idolâtries, la célébration de nos égos, toutes ces auto-trahisons évoquées ensemble, et l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi dans le martyre, c'est-à-dire dans le témoignage, dans le don de notre vie. Et on est embarqué dans ce combat tous les jours, on a des micro-combats, etc. Et il est important d'avoir des amis, c'est-à-dire que la décision de faire le bien, évidemment, elle est prise seule. Tous les actes profondément créatifs, ils sont pris seuls. C'est vraiment le sanctuaire de la conscience. Et c'est l'exercice de notre liberté. Oscar Wilde le disait, à propos de la création artistique, ça reste fondamentalement un mouvement de création solitaire. Et parce que nous sommes uniques, parce que nous sommes élus et que le Seigneur veut qu'on fasse des merveilles. Donc la décision, elle est solitaire, mais le combat et l'engagement dans le monde pour construire, pour suivre ce but supérieur, il se fait avec des frères. Et donc le pape Benoît XVI disait, il est important d'avoir des amis. Et là, il remercie, on imagine cet entraîneur, « Merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs ». Donc il évoque ces moments de jubilation, ces moments de grand réconfort partagé, et puis il nomme les douleurs, parce qu'on galère, parce que chacun, là où il est planté, disait François de Sales, évoque et rencontre des difficultés, des vraies souffrances physiques, morales, déchirements, des trahisons, des plantages, des angoisses par rapport à l'avenir. Et là, le pape Benoît XVI, mobilisant son troupeau, mobilisant ses équipes, dit « Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Le Seigneur est déjà ressuscité, nous sommes libres, nous devons jouer libérés. » Et il termine par un moment de mobilisation et de gratitude. « Merci à vous tous, on a besoin d'être remerciés. Le Seigneur vous bénisse tous. » Et c'est intéressant, c'est que le chef reconnaît qu'il y a un chef au-dessus de lui. Le Seigneur vous bénisse tous. Et puis, c'est irrésistible, la fin. Levons nos verres. Et là, on trouve vraiment les verres qui s'entrechoquent. On imaginait une grosse pinte de bière. Et c'est ça la grandeur du sport. C'est ça la grandeur de la solidarité humaine. C'est la joie du banquet. Et le banquet, il est eucharistique, c'est la joie de partager des complicités et puis dans notre incarnation dont nous savons qu'elle, cette enveloppe charnelle, elle est là pour se donner aux autres, mais avec toujours cette forme de suspension, parce qu'on sait que nous sommes faits pour la vie éternelle, et ce qui est merveilleux, c'est que cette vie éternelle, elle a déjà commencé. Voilà. À très bientôt, chers amis de Radio Maria. Le mois prochain, on sera à moins d'un mois du début des Jeux Olympiques. D'ici là, la flamme aura continué à traverser notre pays. La flamme de l'Esprit-Saint aura continué à irradier nos cœurs, nos esprits et nos intelligences. Donc, préparons-nous et puis soyons des témoins joyeux, rayonnants. Ne soyons pas comme ces êtres courbes qui avancent de biais, si bien critiqués et dénoncés par Emmanuel Mounier. Avançons comme dans un esprit chevaleresque, avec ce respect des uns et des autres, et puis cette force d'annoncer, de partager la joie qui habite notre personne, parce que le monde a besoin de s'appuyer sur ce qui résiste, et le Seigneur est déjà ressuscité, il résiste à la mort, et non seulement il lui résiste, mais il l'a vaincu. Bonne semaine à tous et au mois prochain.
Chers auditeurs, c'était notre émission Les Jeux Olympiques et la foi en compagnie d'Arnaud Boutéon. Il y était question ce mois-ci du Père Didon, un prêtre olympique. Vous pourrez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.